10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez bien Le Monde ne suffit pas, votre émission d'actualité internationale sur Transistor. Bonjour Antoine.
Bonjour Fabien et bonjour à vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale que nous vous proposons. Vous allez certes retrouver notre revue de presse hebdomadaire avec le désormais célèbre palmarès de la semaine, mais vous allez aussi retrouver deux de nos correspondants internationaux.
Exactement Antoine, parce qu'après avoir évoqué la Côte d'Ivoire et le Pérou, nous partirons à Londres avec Myriam et à Jakarta avec Rémi, que vous avez l'habitude d'entendre à ce micro même.
Eh bien, partons pour notre tour du monde.
Et on commence, Antoine, par faire un point sur les événements récents en Côte d'Ivoire.
Nous avions déjà évoqué la Côte d'Ivoire dans un numéro précédent et au fil de la situation, mais il est temps de faire le point car la situation s'est débloquée le 11 avril avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, le président sortant qui refusait de laisser sa place au pouvoir à Alassane Ouattara, pourtant élu par le peuple ivoirien. Mais le présent reste pourtant toujours incertain et l'avenir plus encore. Il serait faux de penser que la situation est rentrée dans l'ordre et que désormais la concorde règne dans le pays. Les affrontements entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara risquent de laisser des traces très profondes dans la population. Les forces pro-Ouattara sont en effet accusées d'avoir perpétré un massacre ethnique à Douekwe, dans l'ouest du pays. Un enquêteur d'Amnesty International accuse, je cite, « Au carrefour de Douekwe, le 29 mars, des centaines d'hommes, des jeunes, ont été triés et abattus, tués en fonction de leur origine ethnique, l'origine ethnique guérée, parce que considérés comme des partisans de Laurent Gbagbo, alors que ces miliciens avaient quitté la ville. » Fin de citation. Ce massacre ethnique aurait fait 800 morts, selon l'ONU.
Voilà qui risque vraiment de rendre difficile le processus de réconciliation que Alassane Ouattara a tant promis aux Ivoiriens.
Et tu pointes parfaitement le problème, Fabien. Jusque-là, Ouattara avait l'entière légitimité pour gouverner car il avait le vote démocratique avec lui. Mais désormais, ce massacre encombrant pour le nouveau président ivoirien risque d'écorner sa légitimité dans un contexte de très grande division. Car si Alassane Ouattara a remporté le scrutin avec 54% des voix, près de la moitié des Ivoiriens donc, étaient partisans de Gbagbo cependant. Et les affrontements des deux clans, dignes d'une guerre civile, ont considérablement crispé la donne. Le chantier politique qui attend Ouattara est donc colossal. Réconcilier le peuple ivoirien, installer la démocratie encore instable dans le pays et faire repartir l'économie. Il a déjà pris des mesures. Il a promis la transparence au sujet, je cite, de tous les massacres et autorisé toute enquête sur les événements. Reste à savoir si cela suffira. On enchaîne, Fabien, avec le résultat du premier tour des élections présidentielles au Pérou.
Oui, Antoine. Ces élections ont eu lieu dimanche 10 et le second tour est quant à lui prévu pour le 5 juin prochain. Lors de celui-ci s'affronteront Ollanta Humala, qui a obtenu 31% des voix, et Keiko Fujimori, qui a obtenu 23,5% des suffrages. Les deux candidats ont des profils à la fois différents et proches, et donnent à ces élections une teneur particulière. Il s'agit d'abord d'élections générales, qui renouvelleront simultanément le président péruvien, l'Assemblée et les députés au Parlement andin, l'équivalent de nos députés européens.
Mais alors, quels sont les deux projets qui s'affronteront le 5 juin ?
Eh bien Antoine, si ces résultats font tant de bruit, c'est que ces deux candidats sont les représentants des deux partis extrêmes du pays. Le parti du président actuel, Alan Garcia, est tenu pour responsable de cette situation. Il avait en effet relégalisé le parti de Keiko Fujimori, 36 ans, qui n'est autre que la fille de Alberto Fujimori, le célèbre dictateur péruvien d'origine japonaise, accusé de crimes contre l'humanité, de meurtres, de détournement de fonds, de trafic, et j'en passe. Le parti de sa fille nommée Fuerza 2011 est constitué de beaucoup des hommes qui formaient l'arrière-garde de l'ancien chef d'État. Son discours, nationaliste de droite, se fonde sur la lutte contre la pauvreté et l'insécurité. Résultat, ce parti a tellement été bien relancé qu'il figure au deuxième tour des élections. Le deuxième candidat, Humala, a œuvré ces derniers temps quant à lui à se donner une carrure présidentielle, à la façon typiquement sud-américaine. Pour beaucoup d'observateurs, il a adopté le style de Lula, teinté, il est vrai, d'Hugo Chavez. Style qui a boosté ses résultats. En quelques mois, il est passé de 5% des intentions de vote à 31% à la présidentielle. Il est porteur du nationalisme de gauche à la brésilienne. Et comme il n'y a pas de hasard en politique, son conseiller en communication n'est autre que João Santana, l'homme qui a dirigé les campagnes de Lula en 2006, de Dilma Rousseff en 2010, mais aussi celle de Mauricio Funes, élu président du Salvador en 2009. Humala a aussi imité la fameuse lettre au peuple brésilien de Lula, qui avait grandement contribué à la victoire du président brésilien en rassurant les milieux économiques.
Donc si je comprends bien, il y aura deux candidats populistes au second tour.
Oui Antoine, le mot est juste. C'est le signe là vraiment d'un malaise de beaucoup de Sud-Américains et en particulier de Péruviens. Les Péruviens rejettent. Les élites actuelles souhaitent participer davantage à la vie politique, bénéficier de la croissance de leur pays et plus profondément remettre en cause le modèle politique actuel du pays. Keiko Fujimori, la candidate d'extrême droite, fait croire qu'elle en est capable. Humala, le candidat de la gauche, quant à lui, est une expression d'un modèle politique proprement sud-américain qu'on pourrait nommer l'homme providentiel, socialiste et nationaliste.
Et on passe maintenant à la deuxième partie de notre revue de presse. Place à nos correspondants internationaux. Et on commence avec toi, Myriam. Bonjour à toi.
Oui, bonjour Antoine, je t'entends très bien. Bonjour Fabien.
Alors Myriam, tu as profité de ton poste de lectrice en Angleterre pour faire réagir tes élèves sur deux événements qui touchent actuellement le pays, le mariage princier qui s'annonce et ce qui touche plus directement les étudiants, l'augmentation des droits de scolarité dans le contexte de la crise. Alors Myriam, dis-nous, comment va la vie outre-Manche ?
Alors que le soleil a fait son grand retour à Londres et que le mariage de Will et Kate approche à grands pas, j'ai interrogé mes élèves de deuxième année sur la récente crise politique, notamment causée par l'augmentation des frais universitaires. En effet, il est rare que les Anglais manifestent dans la rue, mais depuis septembre dernier, les manifestations se sont faites plus nombreuses et aussi plus violentes. Le gouvernement de coalition, dirigé par David Cameron, conservateur, et Nick Clegg, libéral-démocrate, a finalement fait passer la loi sur l'augmentation des frais d'université. Je vous laisse écouter leurs réactions, qui sont, vous allez l'entendre, divergentes.
Alors James, que penses-tu de l'augmentation des frais d'université ?
Moi, je suis d'accord avec l'augmentation des frais parce que alors, nous sommes tous dans cette crise économique et les universités vont perdre de l'argent, beaucoup d'argent. Et donc, pour maintenir le niveau de l'enseignement, il faut renflouer les caisses, à mon avis.
Et Jordan ?
Je ne suis pas d'accord parce que c'était montré par des experts financiers que l'augmentation des frais ne va pas résoudre les défis nationaux. Donc, en réalité, c'est une législation pas nécessaire vraiment. En plus, avec cette augmentation, le gouvernement va créer un nouveau système pour aider les étudiants, mais avec les législations de l'Union européenne, le gouvernement doit aider tous les étudiants qui sont partis de l'Union européenne, qui sont plus défavorisés que les autres. Donc, en réalité, à fin de compte, avec ce système et ce niveau de législation d'obligation pour aider tous les étudiants européens, cet mouvement et cette augmentation de frais, en réalité, coûte plus cher que maintenant.
Et même si les frais montent, je pense qu'il y aura beaucoup plus de bourses à obtenir pour que ceux qui sont plus pauvres et qui sont moins aidés puissent avoir ces bourses et alors avoir une éducation. Et donc cela garantira un système beaucoup plus égalitaire. Mm-hmm. Donc finalement, ça sera plus égalitaire l'augmentation des frais, ça va permettre un système plus égalitaire
Oui, j'espère que je ne pense pas que ça va arriver du jour au lendemain. Mais je pense que si ce système prend place, alors ça va être plus d'une façon, en tout cas même si au début ça commence à être injuste, je pense que les bourses et l'argent du gouvernement et d'autres institutions balancera la situation.
Alors quelques explications. En fait, chaque université décide du montant des frais d'inscription. Mais il y a une limite et c'est cette limite qui a été augmentée. D'un maximum de 3 290 livres par an, on passe à 9 000 livres, c'est-à-dire le triple. Et il y a fort à parier que les universités iront jusqu'à ce maximum, puisque l'État va beaucoup moins financer l'enseignement supérieur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les étudiants britanniques empruntent à l'État pour payer leurs études. Et ils le remboursent une fois qu'ils ont un salaire, mais encore faut-il en avoir un. Le gouvernement a donc annoncé qu'au lieu de commencer à rembourser à partir d'un salaire de 15 000 livres par mois, ils pourront attendre de gagner au moins 21 000 livres. Les plus touchés, bien sûr, sont les étudiants dont les parents ont des revenus modestes. Alors, il existe des bourses, mais apparemment, celles-ci ont été réduites de moitié. On passe de 3 400 livres par an à 1 625 livres. La crainte, c'est donc une privatisation encore plus grande des universités sur le modèle des États-Unis. Mais surtout, l'impact réel, c'est le fait que de plus en plus de jeunes renonceront à faire des études. Certains de mes élèves m'ont en effet confié que leurs frères ou leurs sœurs ne pourront pas aller à l'université, en dépit de l'emprunt possible auprès du gouvernement et du système de bourse. D'un autre côté, j'ai rencontré un certain nombre d'étudiants qui tiennent un discours selon lequel, en temps de crise, tout le monde doit se serrer la ceinture. Et ces étudiants, pourtant, ne se revendiquent pas nécessairement du parti conservateur. Finalement, c'est ce sentiment de résignation face à la crise qui m'a beaucoup marqué, même si il est vrai que cette fois-ci, il y a eu beaucoup de protestations. Les Anglais ont aussi été fortement touchés par les restrictions budgétaires dans le système de santé, le NHS. Il fallait donc bien au moins un mariage royal pour remonter le moral à nos voisins d'outre-Manche. Malgré quelques rares antimonarchistes, la majorité des Anglais attend l'événement avec impatience.
Donc, que pensez-vous du mariage royal qui aura lieu le 29 avril?
Moi, je pense que oui. Moi, je suis très content avec que les deux vont se marier. Parce que oui, une chose très bonne pour le pays, pour l'Angleterre, pour les touristes et l'économie, tout cela. Je crois que c'est très bien.
Le mariage royal sera une trêve, mais en même temps, on va perdre beaucoup d'argent avec des policiers. Je dis gaspiller millions de livres.
Alors le 29 avril sera férié ici pour permettre à tous de célébrer le mariage du prince William et de Kate Middleton. Alors la famille royale a annoncé qu'elle participerait financièrement au système de sécurité qui sera assuré par l'État et la police britannique. Et je pense que finalement, les nombreux produits dérivés comme les tasses, les assiettes, les torchons, les cuillères, etc., et les touristes qui vont venir en masse, eh bien tout cela va sûrement rapporter beaucoup d'argent à l'État. Alors je ne pense pas que le mariage royal soit la solution à la crise ou qu'il sera suffisant pour la faire oublier aux Anglais, mais en tout cas, le temps d'un week-end, ils pourront rêver et ne pas y penser.
Eh bien, merci beaucoup Myriam, tu remercieras pour nous tes élèves. Et on enchaîne d'emblée avec quelque chose de plus exotique. Rémi est à Jakarta, en Indonésie. Bonjour Rémi, tu m'entends bien?
Oui, assez
Ah,
bien, ouais.
on t'entend très bien aussi ici. Si je crois bien, tu vas nous parler d'un attentat qui a eu lieu récemment en Indonésie.
Un attentat qui, en apparence, est d'importance minime, mais qui pourrait bien avoir des implications à une échelle plus globale, plus régionale. Vendredi dernier, le 15 avril, l'Indonésie a été frappée par un nouvel épisode terroriste. Un kamikaze a déclenché un engin explosif qui portait sur lui à l'intérieur d'une mosquée de Cirebon, dans la province de Java-Ouest, et ce, pendant la prière du vendredi midi. Cette mosquée, la mosquée Al-Dirka, est elle-même située dans les locaux de la police municipale de Cirebon. L'explosion a blessé légèrement 31 personnes, dont 24 policiers, parmi lesquels le chef de la police locale. Seul le kamikaze lui-même a trouvé la mort. Cet attentat, si son bilan est heureusement plutôt limité, n'en reste pas moins un mystère pour les spécialistes indonésiens du terrorisme. La méthode de l'attentat suicide n'avait jamais été utilisée auparavant en Indonésie. La cible aussi est en elle-même assez ambiguë. Est-ce qu'il s'agit de la mosquée en elle-même? Ce serait une cible bien surprenante. Dans le plus grand pays musulman du monde, où la quasi-totalité des attentats survenus par le passé était justement le fait de factions islamistes radicales. S'agit-il plutôt des locaux de la police municipale? Si tel est le cas, c'est l'appareil policier et l'État qui sont visés. Mais pourquoi cet endroit-là, à ce moment-là? L'identité du kamikaze a été contrôlée hier après des tests ADN. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, du nom de Muhammad Siari, domicilié à Cirebon. Le personnage est lui-même aussi assez énigmatique. La presse le présente comme un personnage au caractère instable, voire même bipolaire. Selon les enquêteurs, il a déjà été impliqué dans plusieurs cas de violence. Il est soupçonné être l'auteur du meurtre d'un officier de l'armée indonésienne le 2 avril dernier. Une recherche du côté de sa famille révèle aussi quelques surprises. L'un de ses sept frères et sœurs, son petit frère, Imam Haji, joue dans une série télévisée indonésienne, Air Mata Surya, littéralement les larmes du paradis. Quant à sa mère, elle n'est autre que la reine Sri Mulat, membre de la cour du sultan de Kanoman, le sultanat qui correspond à la région de Cirebon. La cour dénie évidemment toute implication dans l'attentat, expliquant que ses membres sont des citoyens indonésiens comme les autres et que par conséquent, elle ne saurait être tenue pour responsable de tous leurs agissements, en particulier de l'agissement criminel. Mais aussi mystérieux que soit le personnage de Muhammad Siari lui-même, aussi instable que soit sur son comportement, il est probable qu'il s'agit de son propre chef. La vraie question, c'est donc de savoir qui est derrière cet attentat. Aucun groupe terroriste ne l'a encore revendiqué. Dans les journaux indonésiens, les explications se succèdent et se contredisent. Hier, un article de l'édition en ligne du magazine Tempo assurait que cet attentat était le fait de réseaux islamistes locaux de Java West. Les enquêteurs eux-mêmes expliquent que Mohamed Siari était apparemment loin d'être un spécialiste en la matière, que l'attentat avait de toute évidence été mal préparé. Mais un autre article du même magazine explique que si cet attentat a été directement perpétré par un réseau local, c'est bien un réseau d'échelle nationale, voire transnationale, qui l'a piloté en sous-main. L'analyse des restes de l'engin explosif utilisé a aussi révélé que cet engin est de même facture que des bombes utilisées précédemment lors d'attentats perpétrés dans d'autres régions d'Indonésie. Le chef de ses services antiterroristes établit notamment un lien entre l'attentat de Cirebon et un attentat perpétré l'année dernière à Medan contre une banque. Il estime également qu'il est fort probable que Mohamed Siari soit passé par les camps d'entraînement terroristes récemment démantelés dans la province d'Aceh, au nord de Sumatra. Une région identifiée déjà depuis longtemps comme étant la base centrale des réseaux terroristes islamistes d'Indonésie et même d'Asie du Sud-Est. Ces camps auraient aussi reçu du matériel et des informations de réseaux terroristes pakistanais affilié à Al-Qaïda. Alors, quelle version peut-il privilégier? Il est fort possible que les deux versions comportent des parts de vérité. Tout le problème, c'est de déterminer l'intensité des relations qui unissent les réseaux locaux aux réseaux nationaux et transnationaux. Cette année, l'Indonésie est soumise à une vague d'attentats d'une nature nouvelle, donc particulièrement troublante pour les spécialistes. En effet, jusqu'à présent, la grande majorité des attentats perpétrés en Indonésie ont visé les lieux fréquentés par les Occidentaux, du moins symboliques de la pénétration du mode de vie occidental en Indonésie. Ce fut le cas des attentats meurtriers perpétrés dans la station balnéaire de Kuta, à Bali, en 2002 et encore une fois en 2004, et de ceux qui ont visé de grands hôtels à Jakarta en juillet 2009. Aujourd'hui, les cibles se diversifient, les motivations des terroristes deviennent de plus en plus obscures. Le mois dernier, Jakarta a été agité par ce que les médias ont appelé la terreur des livres-bombes. En effet, plusieurs personnes ou organisations ont reçu par la poste des livres qui se sont avérés contenir des mini-bombes. Heureusement, aucune des cibles visées n'a été tuée. Ce qui est surprenant là-dedans, c'est que ces cibles ont peu de points communs entre elles. Parmi elles, on trouve des gradés de la police, mais aussi, par exemple, des leaders de mouvements musulmans modérés. Si l'islamisme apparaît encore comme la cause fondamentale de ces attaques terroristes, les motivations qui les poussent semblent se diversifier, et la symbolique contenue dans chacun de ces attentats, car un attentat est d'abord perpétré pour sa portée symbolique, cette symbolique se complexifie. Il est bien possible que ces motivations, de même que les réseaux qui les portent, se mélangent, se modifient et même finalement se recomposent au gré d'alliances de circonstances entre plusieurs groupes poursuivant des buts à différentes échelles. Quand les motivations se brouillent, il ne reste à l'esprit que la peur. Et la peur, une jeune démocratie encore en consolidation comme l'Indonésie s'en passerait bien.
Merci à toi Rémi et à bientôt. On termine comme toujours cependant notre revue de presse par le palmarès de la semaine. Et on débute, Antoine, par un chiffre de la semaine qui n'est pas très gai, ce chiffre c'est 7.
Le chiffre 7, c'est donc le chiffre atteint par la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. Pour quantifier donc les catastrophes nucléaires, on a une échelle qui va de 1 à 7, 7 étant le niveau maximum atteint lors du drame de Tchernobyl. L'accident qui s'est produit à Fukushima au Japon a d'abord été fixé à 4 par les autorités japonaises, mais elles l'ont finalement relevé à 5, puis à 7 ces derniers jours. Fukushima et Tchernobyl sont donc maintenant classés à égalité quant à leur gravité, ce qui n'est pas très réjouissant.
En effet.
Mais Fabien, je crois que tu vas apporter un peu de gaieté avec l'actu insolite de la semaine.
Encore une fois, c'est une question de point de vue, Antoine. Nous partons en Chine, où les autorités de la préfecture de Wuhan ont trouvé un moyen, pour le moins inattendu, de faire diminuer les infractions au code de la route. Chaque semaine, dans la presse, est publiée la liste des mauvais citoyens. 40 personnes réparties en 4 catégories pour lesquelles la presse mentionne le nom, l'âge, l'heure et le lieu du délit, le numéro d'immatriculation du véhicule, la sanction infligée et même, pour les plus méritants, leur photo. Les catégories donc choisies par cette préfecture sont le feu rouge brûlé, le papier jeté par terre, la traversée de la route la plus dangereuse et le stationnement au milieu de la chaussée.
Ah, enfin un festival de Cannes ouvert et accessible à tous. Allez, on passe maintenant à la citation de la semaine, Fabien.
Les francophones ne mettront fin à leur lutte que quand les cabillauds qui nagent au large de la côte d'Ostende parleront français. C'est ce qu'a déclaré Vic Van Alst, un des leaders du parti séparatiste flamand en Belgique.
Encore une fois, chers auditeurs, LMNSP vous trouve du travail. Si la carrière de dresseur d'orques que nous vous avions proposée dernièrement ne vous sied guère, vous pouvez devenir professeur de FLE pour Cabillaud.
On en reste là pour aujourd'hui, Antoine, je crois. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois.
Merci à Rémi et Myriam pour leur contribution. Merci à Xavier pour la technique. On se retrouve la semaine prochaine avec un dossier de LMNSP.
Et d'ici là, n'oubliez pas de vous connecter sur transistor.fr pour écouter entre autres 20 minutes d'histoire. Charles Boriot a rencontré Emmanuel Laurentin, l'animateur culte de la Fabrique de l'Histoire sur France Culture.
Et comme nous savons que jamais le monde ne vous suffit, Transistor prolonge son grand concours Frisson. Vous retrouverez toutes les modalités de participation et les lots à gagner sur notre site. Au revoir à tous.